Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Alors nous nous retrouvons aujourd'hui Monseigneur Calvet, avec lequel nous avons commencé un long parcours où il nous parle un peu de son cheminement personnel. Merci beaucoup. Nous nous sommes séparés la dernière fois lorsque vous reveniez vers Lyon pour terminer vos études de théologie.
Voilà, donc j'avais encore 2 années de théologie que j'ai continuées aux facultés catholiques de Lyon. Et j'avais également pris la dernière année un enseignement dans une classe de terminale chez les Pères Maristes à Lyon, un établissement que je connaissais bien et qui m'avait permis de ne pas perdre la main. Et également, à Lyon, eh bien, j'étais au contact d'un certain nombre de gens qui connaissaient bien l'Océanie et qui ont un rôle. Je pense par exemple à Gérard Lémangue, qui a été Premier ministre juste avant l'indépendance au Vanuatu, et un certain nombre de gens de sa génération, donc que je connaissais bien et avec qui nous étions amis. J'ai donc terminé mes diplômes en théologie, et avec toujours un certain Père Colomban qui était là et qui terminait également ses études à Lyon avant de rejoindre son monastère puis de partir à Jérusalem. Et puis, le 28 avril 1973, j'étais ordonné prêtre. Donc ordonné prêtre, précisément dans la chapelle du séminaire de Sainte-Foy-lès-Lyon et en présence du reliquaire de Saint-Pierre Chanel, ce fameux reliquaire qui a été transporté ensuite solennellement à Futuna. C'est le moment où il était seulement question qu'il y soit transporté, mais à l'époque, il était encore là, et moi, je l'avais toujours vu à l'entrée de la chapelle du séminaire. Donc, c'est un souvenir, et pour moi, ça a été marquant quand j'ai vu ces reliques arriver à Nouméa, puisqu'elles avaient accompagné toute ma formation. Voilà donc le moment où j'ai été ordonné, bon, un moment bien sûr important, et puis, décision. Que faire ? Alors, il y avait plusieurs propositions. Et entre-temps, Mgr Klein, à l'époque qui était archevêque de Nouméa, avait demandé par écrit à mon provincial de Lyon que je sois à nouveau envoyé en Nouvelle-Calédonie pour continuer le travail que j'avais commencé au cours de mon temps de volontaire de l'aide technique. Et donc mon provincial, après avoir résisté un petit peu, a fini par signer une convention avec l'archevêque de Nouméa, me mettant à disposition pour 5 ans non renouvelables, à la disposition du diocèse de Nouméa, pour le domaine de l'enseignement. Au mois de septembre, donc, je reprenais l'avion pour la Calédonie, cette fois-ci en passant par Tahiti, accompagné par un certain Père Guilain de Razilly, qui lui était nommé à la province d'Océanie, alors que moi j'étais seulement prêté. Et voilà que nous sommes passés à Tahiti, c'était la première fois que je passais là, mais Guilain avait quelqu'un de sa parenté qui était là et qui nous a accueillis pendant quelques jours. Et ensuite, nous sommes arrivés à Païta, moi pour me rétablir à Païta. Et donc à Païta, eh bien j'ai repris l'enseignement, réorganiser le dispositif qui me faisait assurer les cours à Blaise Pascal pratiquement tous les jours de la semaine. Et donc ça a été un moment important avec beaucoup de jeunes qui sont passés par Saint-Léon et avec la charge assez rapidement, au bout d'une année et demie, j'ai été nommé responsable de la maison, chargé des vocations. Et donc, il a fallu prévoir la mise en route d'un certain nombre de candidats au sacerdoce vers le séminaire de Suva, à Fidji. Alors, malheureusement, j'avais été formé en mathématiques, mais pas en anglais. Si bien qu'il a fallu reprendre la totalité de ce qui me manquait en anglais. Ça a pris pas mal de temps, ça m'a un peu handicapé. Mais enfin, les gens étant patients dans le Pacifique, eh bien, ils se sont contentés de l'anglais que j'avais. Et donc, j'ai commencé à envoyer les premiers candidats du diocèse de Nouméa, du diocèse de Wallis et Futuna et du diocèse de Port Vila à Fidji, au grand séminaire Saint-Pierre Chanel.
Donc vous aviez un statut vraiment particulier. Vous parliez tout à l'heure du père Guilin, actuellement Monseigneur Guilin, mais qui était, lui, chargé d'une paroisse, dans le fond, qui était en paroisse, alors que vous étiez dans un domaine un peu parallèle, on va dire.
C'est vrai que le père Guilin de Razilly avait été transféré à la province d'Océanie. Donc c'était une situation classique. Tandis que moi, j'avais été seulement prêté pour un temps limité, si bien que le provincial qui avait signé cette convention a été un peu déçu. Quand j'ai été nommé évêque, c'est-à-dire en 1979, et ce qui lui a fait dire, mais on leur prête quelqu'un, ils nous le volent. En fait, à partir du moment où un religieux est nommé évêque, il est comme retiré à sa congrégation. Il est à la disposition du diocèse où il est nommé, il est à la disposition de Rome directement, mais il n'est plus à la disposition de son supérieur provincial, comme c'était le cas pour moi.
Ce qui explique la réaction de votre supérieur provincial. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une rencontre que vous faisiez avec des jeunes qui se préparaient à la confirmation. Et parmi leurs questions, il y avait « Quelle a été la réaction de votre famille lorsque vous avez été nommé évêque ?»
Ah ben c'était absolument bon. Eux savaient que j'étais en principe pour 5 ans non renouvelables et étaient contents de me voir revenir en métropole. À l'époque, c'est la dernière fois que j'ai utilisé un moyen de communication qui maintenant paraît tout à fait antique. C'était un télégramme. Je me rappelle avoir envoyé un télégramme de la poste de Païta indiquant à ma famille que j'avais été nommé évêque auxiliaire. Bien sûr, ils sont tombés des nues, ils ne s'attendaient absolument pas à ça. Ça ne correspondait en rien à une trajectoire prévisible en ce qui me concernait. Et ils ont été extrêmement étonnés, au point que quand l'organisation a été faite, la mise en place, personne de ma famille n'a pu se déplacer, n'avait même envisagé de pouvoir venir. Pour eux, c'était impensable. Pourtant, mes parents, mes frères et sœurs étaient habitués à voyager, mais à voyager dans la région proche, c'est-à-dire jusqu'au Proche-Orient.
Oui, c'est ça, c'était un peu excentré, allons-nous dire. Et donc, vous avez été ordonné ou consacré évêque ?
Donc les deux termes sont utilisables. C'est une ordination, puisqu'il y a trois ordres, le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat, dans l'ordination, et on dit consacré à un évêque aussi.
Cela s'est passé à Nouméa ?
Ça s'est passé à Nouméa, c'était le 4 novembre 1979, et donc étaient venus des évêques du voisinage, mais également aussi des amis et des évêques qui venaient de loin. Et puis, la cathédrale était trop petite, parce qu'on envisageait, et c'est ce qui s'est passé, il y avait à peu près 4000 personnes présentes, et c'est dans la cour de Saint-Joseph de Cluny que la célébration de l'ordination épiscopale a été faite. Et ça a été un temps magnifique, une fête admirable et un site dont je garde bon souvenir. Mais en fait, je n'étais pas le premier à avoir été ordonné évêque à cet endroit-là, puisque Mgr Michel d'Armancier, évêque de Wallis et Futuna, qui était le prédécesseur de Mgr Lolesio Fuaia, avait été ordonné évêque, consacré évêque, à cet endroit-là, pour la même raison, et c'est pour ça qu'on savait que la cathédrale était trop petite pour une ordination épiscopale avec beaucoup d'affluence.
Alors nous reviendrons très prochainement justement sur vos premiers moments en tant que jeune évêque. Et merci beaucoup pour tout ce récit qui est de plus en plus passionnant et que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Donc nous serons heureux de vous retrouver prochainement. Et merci à vous, amis auditeurs, d'être fidèles à notre rendez-vous. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et une très bonne semaine.